Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International pour sa seconde émission sur la promotion et la défense des droits humains du mois d'octobre. Voilà, on est très content de retrouver tous les auditeurs et auditrices de Principe Actif qui nous suivent dans nos informations et nos mobilisations pour ces sujets hautement essentiels, la défense des droits humains, et de plus en plus essentiels à l'époque qu'on vit. Voilà, point de suspension. On va commencer l'émission ce soir en envoyant des remerciements. Oui, oui.
Bonsoir. Bonsoir, nous sommes là.
Didier, on est là.
Il y a Edith qui me fait un signe en disant « et nous ».
Et Mina, pareil. Hein.
Et nous, alors, et elle, c'est Mina qui a déjà dit bonsoir.
Voilà, on dit bonsoir. Mais après, tu peux parler.
Edith. Oui, c'est vrai que j'étais parti sur ma lance.
Vas-y.
Donc, on va commencer l'émission par des remerciements pour la Brasserie Sport. Nos amis de la Brasserie Sport, vendredi soir dernier, on était chez eux pour la projection débat du film Présumé coupable, qui est un film qui fait le point sur la répression des manifestations pacifiques en France et qui est un film qui a été fait il y a 2 ans par Amnesty International France.
Très bien.
Voilà.
Je ne l'avais pas vu encore et je l'ai trouvé très bien. Une autre façon, il n'y a pas du tout de regard sur les manifestations, mais sur comment ça fonctionne et après.
Sur nos droits de manifester,
voilà.
Et les atteintes aux droits de manifester que ça représente et à la répression
et
à la liberté d'expression.
Bien.
On a été très très bien reçus.
Très bien accueillis.
Remerciements à toute l'équipe de la brasserie encore une fois. Et puis, aussi à Marie Curie qui assurait le repas et qui fait toujours de l'excellente cuisine. On avait déjà eu l'occasion de la rencontrer et donc on confirme que c'est vraiment très très bon ce qu'elle fait. Voilà. Pour une fois qu'on parle de repas dans les émissions d'Amnesty, c'est pas souvent. Voilà. Donc bon, restez avec nous ce soir, hein, pas mal de sujets. On va vous parler de droits humains et du non-respect de ces droits humains pour les travailleurs de Carrefour en Arabie Saoudite. Et oui, un sujet qui ne fait pas la une de l'actualité, mais on va vous en parler. On va vous parler effectivement d'un communiqué sur les droits de Paul Watson, ce responsable de l'association Sea Shepherd qui est actuellement en prison au Groenland, etc., etc., d'informations culturelles et de bonnes nouvelles et autres. Donc ne quittez pas l'antenne avant 20h et même après pour le laboratoire. Voilà. Donc pour commencer, je crois que c'est
moi.
Edith qui doit vous parler
voilà,
de caisse d'allocation familiale.
Oui, peut-être avez-vous eu l'info, ça quand même. C'est quand même passé un petit peu dans certains médias. La Caisse d'allocation familiale, alors le vrai nom c'est Caisse nationale des allocations familiales, CNAF, utilise depuis 2010 un algorithme discriminatoire qui vise délibérément les allocataires les plus vulnérables. Alors ce scandale a été révélé en 2023 par la Quadrature du Net, hein, une association très importante sur l'étude de ce qui se passe sur le net, par Le Monde, et Lighthouse Reports. Alors, ça a été je vous explique ce qui se passe et je vous explique ce qui va se passer maintenant, puisqu'il y a 14 associations qui vont porter cette affaire en justice. Donc, l'algorithme de la CAF, plus une personne est précaire, plus elle va être ciblée par des contrôles. Présenté comme un outil de lutte contre la fraude, l'algorithme de la CAF oriente les contrôles vers les personnes les plus défavorisées. L'association, la Quadrature du Net, relève le caractère discriminatoire de l'algorithme. Alors, en assimilant précarité et soupçon de fraude, cet algorithme participe d'une politique de stigmatisation et de maltraitance institutionnelle des personnes les plus défavorisées. Pour identifier les personnes devant être contrôlées, la CAF utilise un algorithme de notation de ses allocataires, un score de risque allant de 0 à 1 et attribué à chacun. Le fonctionnement est simple. Plus le score est proche de 1, plus la probabilité des allocataires que les allocataires se fassent contrôler est élevée. Alors voilà, je vous donne un peu les raisons. Vous avez un faible revenu, votre score de risque augmente. Vous êtes au chômage, votre score de risque augmente. Vous avez une allocation adulte handicapé, votre score de risque augmente. Conséquence, les personnes déjà en difficulté se retrouvent surcontrôlées par rapport au reste de la population. Alors, la liste des critères à risque est utilisée par l'algorithme, parce que la Quadrature du Cercle a réussi à aller voir vraiment la structure de cet algorithme. Disposer de faibles revenus, être au chômage, habiter dans un quartier défavorisé, percevoir l'allocation adulte handicapé. C'est vraiment une politique d'acharnement contre les plus pauvres.
Mais du coup, je ne comprends pas, ça ne veut pas dire pour autant que c'est des fraudeurs.
Ben oui,
Pourquoi ils se feraient plus contrôler ?
Parce que l'algorithme les désigne. Voilà, ils sont désignés. Donc là, ce qui se passe, il y a 14, donc on va enlever Amnesty, ça fait 14 ou 15 associations qui ont décidé d'attaquer l'algorithme devant la justice. Alors, je cite quand même les associations parce que je pense qu'elles n'ont pas forcément une grande vitrine sur le public et c'est intéressant de savoir. Donc, il y a l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnement vers la majorité. Elle s'appelle AEKISAS, donc effectivement, c'est pas très. C'est une autre AEKISAS, Amnesty, l'Association nationale des assistants et assistantes de services sociaux, collectif Changer de Cap, Contact Presse, Fondation Abbé Pierre, Logisti, le Mouton Numérique, la Ligue des droits de l'homme, le Mouvement national des chômeurs et des précaires, le Mouvement français pour le revenu de base, CNDH Rome Europe, le syndicat des avocats de France dirige et c'est la Quadrature du Cercle qui prend qui eux demandent la mise en justice.
Quadrature du net, t'as dit du cercle.
Ah du cercle, oui c'est vrai net, que ça fait. Oui pourtant je connais voilà. tu as raison, reprends ça. Donc Agnès Calmar, elle fait une petite note aussi dont on avait peut-être déjà parlé, je pense, dans nos moments radio avec vous, c'est qu'il faut faire vraiment très attention sur la situation en France, parce qu'on risque de suivre d'autres pays comme le Pays-Bas, je ne sais pas si vous vous rappelez. Nous avons vu ce qui s'était passé aux Pays-Bas en 2021, où le fisc a utilisé un algorithme discriminatoire de notation des risques pour détecter la fraude aux allocations familiales. Et aux Pays-Bas, des milliers de familles ont été plongées dans la dette et la pauvreté parce qu'ils n'ont pas pu montrer, ils ont eu forcément un arrêt des aides. Et une situation similaire risque de se reproduire en France et ce risque doit être atténué de toute urgence parce qu'il y a déjà des préjudices qui sont survenus. Parce que ce qui se passe si on demande une surveillance et on est obligé de montrer ses papiers, de montrer ses revenus, ben pendant ce temps-là, on n'a pas les allocations. Les techniques pour demander un retour des allocations quand on a trouvé qu'il n'y avait rien, c'est long. Ça demande à être actif sur les réseaux sociaux ou sur la CAF, et des gens qui sont déjà dans des grandes précarités ou dans des grands soucis, ils n'ont pas la capacité ou ils n'ont pas la force de pouvoir le faire. Donc ça, vraiment, il va falloir... Alors donc, en plus, notre cours, il est devant le Conseil d'État. Donc, on va demander sur l'étendue de la surveillance, parce qu'en plus, cet algorithme analyse chaque mois des données personnelles de plus de 32 millions de Français vivant dans un foyer qui bénéficie de prestations de la CAF, donc il y en a quand même beaucoup, et il calcule aussi 13 millions de scores, et sur une discrimination opérée par cet algorithme. Donc on est très vigilant à ce qui va se passer, on espère que le Conseil d'État va pouvoir arrêter l'utilisation de cet algorithme, et aussi penser que dans tout le social, il faudrait arrêter un peu cette automatisation d'Internet, d'algorithmes qui est en défaveur des gens.
Et comme disait Mina, effectivement, ça engendre le soupçon tout à fait détestable que si on est précaire, si on est avec des revenus très faibles, et si on est voire dans la misère, on est soupçonné de vouloir frauder, de ne pas respecter, enfin, etc. C'est c'est une forme de discrimination et d'assimilation de certaines franges de la population qui est absolument détestable.
Et puis la complexité de ces algorithmes. Enfin, pour des gens qui sont dans les panades, ils ne vont pas s'amuser à aller sur l'ordinateur pour récupérer après, retrouver les aides. C'est très compliqué.
Bah oui, bien sûr,
l'ouverture,
bien sûr.
Fermeture. Et pendant ce temps-là, tu vis avec quoi ? Voilà, c'est un peu la grosse problématique. Donc, on espère que ça va être efficace.
Bon, on suivra ce qui se passe. Et puis, de toute façon, on vous tiendra au courant sur les réponses du Conseil d'État par rapport à cette plainte qui a été déposée. Voilà. Donc, on va vous parler d'un... C'est moi qui vais vous en parler.
Oui,
d'un sujet,
Didier, à toi.
D'un sujet dont on n'a pas encore eu l'occasion d'aborder dans nos émissions, parce que les...
Mais tu l'as dit en annonce.
Les sujets sont toujours très nombreux. Et donc, Paul Watson, oui, tout à fait, Paul Watson,
ouais,
qui est le responsable de l'ONG Sea Shepherd, est actuellement en prison. Et voilà ce que dit Amnesty. Donc, Paul Watson est un militant écologiste canadien, ancien cofondateur de Greenpeace. Il a fondé l'ONG Sea Shepherd et dirige aujourd'hui la fondation Captain Paul Watson, dédiée à la préservation et à la protection de la vie marine et de ses habitats. Il mène depuis des années un combat pour la protection des cétacés, dont de nombreuses espèces sont menacées d'extinction. Depuis 1986, le braconnage des baleines est illégal grâce à un moratoire de la Commission baleinière internationale bannissant le commerce de baleines. Malgré ce moratoire international, le Japon a poursuivi la chasse des baleines sous couvert de recherches scientifiques, ce qui a été condamné par la Cour internationale de justice dans un arrêt de 2014. Leur braconnage par le pays nippon s'est intensifié depuis 2019, date à laquelle le Japon s'est retiré de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine et de son organe de décision. Le pays a depuis lors repris la chasse à la baleine à des fins commerciales, au mépris du droit international. Paul Watson, donc, a été arrêté par la police en juillet 2024, alors que son navire accostait à Nuuk, la capitale du Groenland, en territoire danois autonome. Son arrestation a eu lieu alors que son équipage cherchait à se ravitailler en carburant. Il était en route vers le passage du Nord-Ouest dans le cadre d'une campagne visant à intercepter le Kangel Maru, le navire-mère baleinier de 113 mètres de long récemment construit par le Japon. Les autorités du Groenland ont agi sur la base d'un mandat d'arrêt international lancé par le Japon en 2012. Les charges envers lui concernent des faits qui remontent au 11 février 2010. Les autorités japonaises l'accusent d'avoir endommagé un navire baleinier japonais, d'avoir entravé les activités du navire et d'avoir blessé un membre d'équipage lors d'une altercation dans les eaux de l'Antarctique. Depuis son arrestation, Paul Watson est en attente d'une éventuelle extradition vers le Japon, où il risque jusqu'à 15 ans de prison. Le 4 octobre dernier, Paul Watson a demandé l'asile politique en France. Une pétition demandant sa libération a recueilli près de 200 000 signatures. Alors que la justice groenlandaise a décidé du maintien en détention provisoire de Paul Watson jusqu'à la mi-novembre, nous rappelons son droit à un procès équitable et l'impérieuse nécessité de veiller à ce que les éléments de preuve reflètent correctement les accusations et les procédures d'extradition. Le droit international et la préservation des droits humains sont et resteront toujours notre mission première. En vertu du droit international relatif aux droits humains, nul ne peut être détenu sans motif légitime et toute personne accusée d'un crime a droit à un procès équitable, rapide et conforme aux normes internationales. Paul Watson a droit à la présomption d'innocence, à une représentation juridique, à l'assistance d'un interprète compétent, à la contestation de sa détention, à un procès équitable dans un délai raisonnable et devant un tribunal indépendant et impartial. Au Japon, le débat autour de l'industrie baleinière est hautement politisé et controversé. Si Paul Watson est extradé, il risque jusqu'à 15 ans de prison, comme on l'a dit. Voilà. Donc Amnesty rappelle dans ce communiqué que Paul Watson, même si effectivement il y a des faits délictueux qui peuvent être retenus contre lui, ces faits-là doivent être prouvés et que de toute façon, il a de toute manière droit à un procès équitable.
Voilà. Et quand on sait les conditions d'emprisonnement au Japon, franchement, Voilà, on voudrait bien qu'il échappe à ça.
C'est clair. Et donc, on rappelle aussi que de toute façon, la reprise de la chasse à la baleine, c'est absolument, sur un plan écologique et sur un plan moral, parfaitement inacceptable. Voilà, je crois qu'on va changer de pays. On ne va plus parler d'île Groenland, d'île Japon,
ouais,
et mais
ben
du
c'est,
Burundi.
C'est, voilà, alors, c'est à, je vais vous parler d'une bonne nouvelle. Et alors, cette bonne nouvelle-là, je vais tout vous dire. Je l'ai dans mon classeur Radio Principe Actif depuis, bon, on va dire, allez, 2 mois. Et à chaque fois, on regarde l'horloge et hop, pas le temps de le dire. Donc là, je l'ai mis au milieu pour pouvoir... Vous en parlez.
On va demander à Principe Actif que nos émissions durent 2 heures au lieu.
Ben, pas forcément, mais on a peut-être trop de choses.
Yamina qui n'est pas d'accord.
Maurice, faut pas pousser vos choses trop loin.
Alors, moi, la bonne nouvelle, c'est une journaliste burundaise, Floriane Irangabay, qui a été libérée en août 2024. Alors, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Donc, Floriane a été arrêtée à Bujumbura le 30 août 2022, alors qu'elle était en visite au Burundi, depuis le Rwanda où elle résidait à l'époque. Le 2 janvier 2023, elle a été condamnée à 10 ans d'emprisonnement pour avoir porté atteinte à l'intégrité du territoire national. Et elle a été condamnée à l'issue d'un procès entaché de graves irrégularités au cours duquel le ministère public s'est fondé sur des propos qu'elle avait tenus dans le cadre d'une émission de radio, une plateforme en ligne exilée, lors de laquelle elle et d'autres personnes invitées avaient vertement critiqué le gouvernement du Burundi. Le ministère public n'a présenté aucun élément indiquant qu'elle incitait à la violence pour renverser le gouvernement. Alors, les appels interjectés par Floriane Irangabay contre sa condamnation ont été rejetés à 2 reprises par les tribunaux, mais la bonne nouvelle, c'est que le 14 août 2024, le président du Burundi a signé un décret lui accordant une grâce totale. Alors, juste pour aussi l'anecdote, Floriane, elle allait faire partie de l'édition 2024 de... alors, on va vous dire Marathon des lettres, 10 jours pour signer. Et maintenant, ça s'appelle, Didier ?
Changer leur vie.
Changer leur vie, c'est ça.
Voilà. Et Amnesty, juste une précision, il va y avoir des élections au Burundi en 2025. Et Amnesty appelle le gouvernement burundais à prendre des mesures immédiates efficace pour mettre fin à la répression de l'espace civique, en particulier à l'utilisation d'accusations liées à la sécurité de l'État pour réduire au silence les journalistes, les défenseurs ou les défenseuses des droits humains et les militants. Voilà, Burundi, pays dont on ne parle pas souvent non plus.
Non, et donc ça prouve bien que dans nos campagnes, effectivement, puisqu'elle faisait partie des cas de la campagne 10 jours pour signer,
changer leur vie
de l'année dernière.
Et bien sa vie là a changé avant, et
voilà,
ça c'est très bien.
Que nos campagnes, effectivement, ont de l'effet, et elle fait partie, j'ai plus les autres noms en tête, mais elle fait partie des 3 personnes qui ont été libérées suite à nos actions de l'année dernière. On aurait bien aimé qu'il y en ait davantage, mais c'est pour elle, déjà essentiel.
Je pense qu'elle a préféré... Si elle allait avoir plein de signatures, c'est sûr, mais c'est quand même mieux d'être libérée et puis depuis le mois d'août, d'être
clair.
D'ailleurs,
elle a envoyé des messages de remerciement comme tous les prisonniers d'opinion qui sont libérés grâce à nos actions. Voilà. Et donc, cette campagne a changé leur vie. On va vous en reparler dans nos émissions du mois de novembre, bien évidemment, mais on peut déjà vous dire qu'elle aura lieu à partir de la fin novembre. On va représenter au public 9 cas cette année, puisque le 10e, ça devait être pour reprendre la campagne
pour
Floriane. Mais donc, comme elle a été libérée, le cas, bien évidemment, a été retiré. Et donc, on vous présentera 9 cas d'atteinte aux droits fondamentaux. Et donc, on en reparlera dans nos prochaines émissions. Mais cette campagne, effectivement, de mobilisation mondiale, qui recueille tous les ans des millions de signatures et d'actions, aura lieu donc à partir du 27 novembre cette année.
Et on sera présent dans différents endroits, et vous le saurez bientôt.
Vous le saurez bientôt. On a déjà des petites idées, mais on ne vous le dira
et
pas.
Alors,
on va faire garder le suspense.
Pourquoi cette campagne à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe en décembre ?
C'est Noël.
Mais non, c'est Noël aussi. 10 jours pour signer.
C'est l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre de chaque année.
Didier, il est trop bon.
Voilà. C'est pas difficile. Hein. Avant, ça s'appelait aussi 10 jours pour signer, 10 décembre, 10 cas, enfin, etc., etc. C'était des séries de 10. Voilà. En anglais, pour ceux qui vont sur les sites anglophones d'Amnesty International, il y en a sûrement parmi vous, ça s'appelle Right for Rights, qui est un jeu de mots, écrivez pour leurs droits. Mais bon, en français, le jeu de mots ne marche pas. Donc, voilà. Donc, on va passer tout de suite la première pause musicale et on se retrouve juste après. Mmh.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés.
Retour sur l'antenne de Principe Actif, donc Amnesty International, pour la suite de son émission sur la défense et la promotion des droits humains. Et je vais vous parler, moi, d'un petit sujet. Alors, je suppose que parmi vous, encore une fois, celles et ceux qui nous écoutent, il y en a un certain nombre, c'est tout à fait normal, qui vont de temps en temps faire des courses dans les grandes surfaces, et entre autres à Carrefour, ici, à Évreux.
Excusez-moi, oui. Est-ce que des fois, dans les grandes surfaces, on entend de la musique ?
Oui.
C'était
oui.
Quoi le titre de la vie qu'on vient d'entendre?
Ouais. Eh ben, moi, je vais tout vous dire. Pour une fois, c'est moi qui demande à une chanson. Eh ben, je me suis fait.
C'est ça. C'était la vie.
Terrible.
C'était merci, la vie. Et c'est vrai que je n'ai pas désannoncé. C'était La Villiers, et le titre de la chanson s'appelle Le cœur du monde. Voilà, donc vous l'avez déjà passé, mais on vous le repasse toujours.
Merci,
avec
Didier.
Plaisir. Donc je reviens à Carrefour.
Carrefour, on va faire des courses à Carrefour, c'est on est ça. D'accord, vas-y.
Donc les gens font des courses à Carrefour, et là je vais vous parler de Carrefour, mais sous un aspect que non, vous n'avez sûrement pas idée. Voilà. Alors c'est un rapport qui vient d'être publié par Amnesty International. Et le communiqué qu'ils présentent dit « Ils sont indiens, népalais, pakistanais. Ils travaillent sur l'un des sites du groupe Carrefour dans les villes de Riyad, d'Aman et Jeddah. Nous avons recueilli les témoignages de 17 d'entre eux. Chacun de ces travailleurs migrants décrit les graves violations du droit du travail dont ils sont victimes. » Alors, le titre du rapport s'appelle « J'allais travailler la boule au ventre ». C'est tout ça, tout à fait éloquent. Et il rappelle ce rapport, donc, il rappelle à l'entreprise française aux 94 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ça c'est le groupe Carrefour à travers le monde, qui fut sponsor premium aux Jeux Olympiques de 2024, son obligation à respecter son devoir de vigilance. Alors, qu'est-ce que le devoir de vigilance ? C'est la loi qui a été adoptée il y a quelques années en France, qui oblige les grandes entreprises françaises, qui emploient entre 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde, à prévenir les atteintes aux droits humains et à l'environnement dans le cadre de leurs activités. Elle s'applique aux activités de l'entreprise elle-même, société mère, des sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement, des sous-traitants et fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie entre guillemets. Alors en Arabie Saoudite, les magasins Carrefour sont représentés par son partenaire local franchisé qui s'appelle Majib Al Funtaim. En vertu des normes internationales relatives aux droits humains, Carrefour a la responsabilité de veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte à ses droits dans le cadre de ses activités et celles de ses filiales. Alors, quelques témoignages dont vous en parlez qui ont alimenté ce rapport. Anan a travaillé dans un magasin Carrefour en Arabie Saoudite en tant que préparateur des commandes dans un entrepôt. Il précise, il n'arrête pas de dire « Yalla, yalla, allez, allez ». Il nous attrape par le t-shirt pour nous faire travailler plus vite. En plus de travailler dans des conditions d'une grande pénibilité, ces travailleurs ont été régulièrement sous-payés. Certains ont dû marcher plus de 20 km par jour et travailler 60 heures par semaine, parfois jusqu'à 16 heures par jour. D'après leurs témoignages, les responsables des sites, des supermarchés et des entrepôts, annulaient parfois leurs jours de repos hebdomadaires et ne rémunéraient pas leurs dizaines d'heures supplémentaires. Hébergés dans des logements insalubres et surpeuplés, fournis par les entreprises prestataires, des travailleurs ont raconté dormir à 6 ou 8 dans une même pièce que l'un d'eux a comparée à une étable. Les atteintes aux droits humains subies par ces travailleurs relèvent du travail forcé, notamment de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation par le travail. Or, ni le groupe Carrefour, ni son partenaire Majib Al Funtaim, qui gère la franchise donc en Arabie Saoudite, n'ont pris des mesures suffisantes pour y mettre un terme ou pour offrir réparation aux victimes. Un peu plus loin, donc, cette présentation de ce rapport précise, les travailleurs interrogés donc dans le cadre de ce rapport ont aussi fait état d'une culture de la peur. Quand ils se plaignaient directement auprès des responsables des sites Carrefour, leurs plaintes étaient ignorées ou on leur disait de voir plus tôt cela avec l'entreprise qui les employait, donc le sous-traitant. Certains de ceux qui ont osé protester ont subi des représailles de la part des sociétés fournisseuses de main-d'œuvre ou des cadres de Carrefour, ce qui a dissuadé les autres de parler. Un témoin a précisé « Si je m'étais plaint, j'aurais perdu mon travail. » Une fois, 14 ou 15 travailleurs se sont plaints et ils ont été renvoyés de leur poste. Dans presque tous les cas, les agents recruteurs leur ont menti, donc ont menti aux gens qui étaient recrutés pour travailler dans ces magasins, leur ont menti ou les ont trompés, parfois avec la complicité des sociétés fournisseuses de main-d'œuvre sur la nature et les avantages des postes en Arabie Saoudite. Ils leur ont fait croire qu'ils seraient embauchés directement par des entreprises internationales. Beaucoup n'ont découvert qu'ils seraient employés par des sociétés saoudiennes de fourniture de main-d'œuvre, dont la mauvaise réputation n'est plus à faire chez les travailleurs et travailleuses, qu'après avoir versé les frais de recrutement. Oui, parce qu'en plus, pour être embauché, il faut commencer par payer. Ils n'ont donc pas pu faire machine arrière, car il leur était pour la plupart impossible de se faire rembourser. Les abus auxquels les travailleurs migrants sont souvent confrontés en Arabie Saoudite, donc listés dans leur rapport d'Amnesty, devoir payer des frais de recrutement illégaux, avoir été trompé ou induit en erreur lors du processus de recrutement, se voir confisquer leur passeport, des salaires bas, retard ou non-paiement des salaires, des conditions de vie insalubres, des restrictions concernant le changement d'emploi ou la sortie du pays. En réaction, le groupe Carrefour et sa franchise saoudienne ont déclaré avoir ouvert une enquête interne sur le traitement du personnel migrant dans leurs établissements en Arabie Saoudite. Aucune des deux entreprises ne s'est encore engagée à rembourser les frais de recrutement ou à indemniser les travailleurs pour les préjudices subis. Voilà, donc ça c'est la présentation du rapport, donc je vous incite à le lire, il y a un résumé en français. Ça s'appelle aller à Carrefour en Arabie Saoudite, j'y allais travailler la porte au ventre. Ça s'appelle
c'est,
comme ça.
C'est sur la page d'accueil du site Amnesty France aujourd'hui.
Amnesty.fr. Donc n'hésitez pas à le lire, c'est tout à fait éloquent. Et Amnesty continuera à réclamer au groupe Carrefour, dont on a rappelé tout à fait judicieusement au début de ce résumé, qu'il était sponsor officiel des Jeux Olympiques, comme quoi on peut avoir des discours à géométrie variable selon ce qu'on fait. Et donc, que Amnesty continuera effectivement à réclamer justice pour ces travailleurs en Arabie Saoudite, honteusement exploités.
Voilà. Et on peut redire que la loi qui fait que les groupes sont légalement responsables de leurs sous-traitants, ça, c'était une loi qui est vraiment importante et qui fait qu'on peut, là, demander à Carrefour de surveiller et de changer tout ça.
Ça me rappelle, et je laisserai la parole juste après Amina, qui a temps pour parler. Ça me rappelle juste après la campagne qu'on avait faite au moment de la Coupe du Monde de football au Qatar, si vous vous en souvenez. On était plusieurs fois intervenus pour réclamer, là aussi, le respect des droits des travailleurs migrants au Qatar qui travaillaient pour la préparation et la tenue de cette Coupe du Monde. Et bien là, c'est pareil, ça se ressemble beaucoup, mais c'est sous l'égide du groupe Carrefour. Voilà. Vous pouvez en parler quand vous allez faire vos courses.
Et justement, avec la rubrique culturelle, restons dans l'exil. Donc, je vais déjà vous parler d'une biographie documentaire. C'est comme ça qu'on dit dans mon métier, dans les bibliothèques.
C'est ça.
C'est « Être français » d'Omar Youssef Souleymane. Je vis une nouvelle naissance. J'ai une nouvelle mère, à votre avis ?
Adoption ?
Oui, d'un pays, la France.
Ah.
Comment ne pas considérer ainsi la terre qui m'a protégée, qui m'a offert la liberté de m'exprimer, qui m'a sauvée de la tyrannie et qui m'a donné ce cadeau, la citoyenneté. Du fait de la situation sanitaire, la cérémonie prévue à l'occasion de la remise de la carte d'identité a été annulée. Qu'importe, j'ai fait ma propre cérémonie avec mes amis. Certains sont nés ici, d'autres ailleurs. Nous sommes tous allés manger un couscous, le plat préféré des Français. Nous avons trinqué avec du vin italien et écouté Rachida et Barbara. Voilà la France que j'aime. Dans ce récit, à la fois politique et poétique, Omar Youssef Souleymane, arrivé de Syrie en 2012 et citoyen français depuis 2022, revient sur son parcours semé d'embûches et de solitude, tout en racontant son attachement charnel et littéraire pour son nouveau pays. Donc, à lire, c'est très très bien. Et effectivement, c'est poétique et engagé.
Tu nous rappelles le titre et l'éditeur, ma petite
Être
Pina.
Français, toujours. Être français.
Oui.
Être ou ne pas être.
Oui, c'est ça.
Et on voit tout son
parcours.
C'est
là la question, ça me rappelle, voilà. Ça me rappelle quelque chose.
Tout son parcours est un peu comme Neyestani, mon auteur de BD. On voit aussi devant les institutions pour faire les papiers, mais c'est pas pesant, vous voyez. Et on voit la souffrance qu'il y a eu en Syrie, les réminiscences plutôt, oh la fille qui parle plus français, les réminiscences du passé, et puis sa vie en France, et lui comment aussi, parce que des fois il est en France, mais il pense avec un cerveau syrien. Et il se dit après qu'en Syrie, bah, il ne pourrait pas
Tu connais y l'éditeur
retourner.
Est-ce que tu as l'éditeur?
Je crois que c'est Flammarion comme ça.
D'accord, bon, enfin, avec le titre, on doit trouver.
Ouais.
Bien.
Ensuite.
Il y avait une autre chronique culturelle, je pense.
La rubrique, il n'y en a qu'une.
Il n'y en a qu'une rubrique,
mais
oui.
Mais j'ai d'autres ouvrages,
pardon.
Effectivement.
Un autre.
Un mot est un mot. Est-ce que mon mari m'entend?
Ronan, si tu nous écoutes.
Ce message est pour toi.
Il est un peu loin, il est à Rouen, enfin il peut nous écouter sur Internet, mais bon.
Et donc là, c'est aussi un témoignage, une sorte de biographie que je n'ai pas encore lue, mais que je vais lire prochainement, d'Alexandra Kozelik. Donc l'éditeur, c'est Aux Forges de Vulcain. Je
ne connais pas.
Non, ça vient de sortir. Le résumé. Quand des pages entières de votre vie vous ont été volées, comment faire pour les retrouver, si ce n'est les écrire? Les parents d'Alexandra meurent dans un accident de voiture alors qu'elle n'a que 8 ans. Elle est recueillie avec son frère par sa tante. Tandis qu'elle grandit entre premiers amours et amitiés adolescentes, un immense vide demeure en elle. Qui est-elle ? L'orpheline ? L'ukrainienne ? La jeune fille qui aime les histoires ? 20 ans plus tard, alors qu'elle revient en Normandie, elle entreprend une enquête sur ce qui a permis sa survie, la langue, la littérature et l'écriture. Un récit poignant sur ces continents intérieurs que nous habitons et qui nous habitent. Donc encore le sujet de l'exil, l'appartenance. Et voilà. Ensuite, un roman graphique jeunesse aux éditions Motus que j'ai acheté au festival de Darnétal, si tu veux tout savoir, mon petit Didier. L'éditeur Motus, l'auteur Rémi David et le dessinateur, la dessinatrice même, Valérie Michel. Ça s'appelle Le tyran de mots. C'est très très bien. Dans un royaume lointain, je pense que vous allez avoir l'impression que c'est très actuel. Un horrible tyran persécute son peuple. Redoublant d'imagination pour conserver son trône, il décide un jour d'interdire aux habitants de prononcer certains mots dans l'espoir de mieux contrôler leurs pensées. Peu à peu, les mots disparaissent, puis les émotions, puis les pensées et enfin la liberté elle-même n'est plus que peau de chagrin. Mais les hommes, les femmes et les enfants du pays n'entendent pas se laisser dicter leur conduite si facilement. Ils vont s'organiser et créer un mouvement qu'ils nomment les mots « tu ». Par le biais de la langue des signes et du silence, ils vont mener la révolution si redoutée par le tyran et le destituer. Il finira en prison. Très très bien aussi.
Oui, ça me rappelle effectivement quelques pays. Oui. Il n'y a pas...
Quelques actuels.
Un certain Poutine qui s'amuse à faire ce genre de choses, ou des ayatollahs à droite et à gauche, ou des gens comme ça, effectivement. Voilà. Ou un certain président chinois aussi.
Et puis l'Afghanistan par rapport aux femmes.
Oui, l'Afghanistan, c'est ça, oui. Des ayatollahs, des talibans. Enfin, il y a plein de gens qui s'amusent, qui aimeraient bien, effectivement, que les gens arrêtent de penser, c'est clair.
Tout à fait. La suite, j'ai croisé Odile du groupe d'Amnesty d'Evreux.
Oui. Je croyais que c'était la titre d'un livre, j'ai croisé Odile. Donc...
Devant le cinéma. Et qu'est-ce qu'elle a vu ? L'histoire de Souleymane. Ouais. Et apparemment, oui. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas de dire ça, elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Alors, l'histoire de Souleymane qui a été primée à Cannes,
ça passe
réalisée
encore.
Par Boris Lushkin. Tu disais ?
Je dis ça passe encore, je crois, cette semaine.
Oui, ça passe
jusqu'à mercredi.
Ça se termine aujourd'hui.
Ouais. Ça passe encore. C'est le prix du jury du meilleur acteur à Abou Sangar, Un certain regard, Festival de Cannes 2024. L'histoire. Tandis qu'il pédale dans les rues de Paris pour livrer des repas, Souleymane répète son histoire. Dans 2 jours, il doit passer son entretien de demande d'asile, le sésame pour obtenir des papiers. Mais Souleymane n'est pas prêt. Avec l'histoire de Souleymane, Boris Lushkin nous plonge dans le quotidien d'un livreur sans papier. Lancé à 100 à l'heure dans les rues de Paris, filmé comme un espace hostile semé d'embûches, entre chronique sociale et ambiance de thriller aux couleurs saturées, le film nous entraîne sans répit dans une course contre la montre, tendu vers l'entretien final, séquence magistrale de tête-à-tête entre Souleymane et l'officier de l'OFPRA, incarné par Nina Meurice, qui décidera du sort de son personnage. Dans le rôle de Souleymane, le Guinéen, Abou Sangaré, qui a connu un parcours assez proche de celui de son personnage, mérite largement le prix d'interprétation décerné à Cannes dans la catégorie « Un certain regard ». Oui, Edith, tu voulais me dire quelque
chose ?
Oui,
parce qu'il y a effectivement aussi un film, mais là, autant Souleymane, on sait qu'il est passé à Évreux et qu'il passe jusqu'à ce soir. Celui-ci, c'est un film qui est soutenu par Amnesty, qui est sorti la semaine dernière, le 26.
Je t'en prie, présente-le-nous.
Voilà, donc 3 km jusqu'à la fin du monde, d'Emmanuel Parvou. Donc il est sorti, oui, le 23 octobre. Donc je vous dis juste le début. Adi, 17 ans, il faut bien prononcer pour séparer les mots.
C'est ça.
Il se fait lyncher par des homophobes dans un village roumain. 3 km avant la fin du monde, d'Emmanuel Parvou décrit la manière dont une société s'organise pour nier cette agression et isoler sa victime. Donc voilà, peut-être va-t-il passer à Évreux, mais si vous l'avez...
J'ai regardé, pour l'instant, il n'est pas programmé. Hein.
Non, il n'est pas programmé. Donc si vous le voyez quelque part, manifestement, c'est un film aussi très...
très engagé.
Voilà, engagé et fort.
Contre l'homophobie. Tu nous rappelles le titre ?
3 km jusqu'à la fin du monde, d'Emmanuel Parvu.
Merci Edith. Ensuite, Lee Miller sur la photographe, que le film dont Kate Winslet voulait absolument faire et incarner le personnage. Donc là, c'est une de mes collègues qui m'en a parlé, Carole, que vous connaissez, que vous avez
déjà vu. Oui, tout à fait. Bonjour Carole.
Donc, c'est un biopic, drame pendant la guerre. C'est de Hélène Couras et c'est l'incroyable... vie de Lee Miller, ex-modèle pour Vogue et muse de Man Ray, devenue l'une des premières femmes photographes de guerre. Partie sur le front et prête à tout pour témoigner des horreurs de la Seconde Guerre, elle a, par son courage et son refus des conventions, changé la façon de voir le monde. Voilà, ça passe, mais par contre, VOVF et les heures, elles sont pas... ça doit être la dernière semaine aussi. C'est soit du 10h15 ou... j'espère que vous aurez la chance de le voir. Et
j'avoue que je n'ai pas vu celui-là. J'ai vu sous
le dernier, vous pouvez tous y aller. C'est dimanche à 16h.
Ouais, vas-y.
À la médiathèque Roland-Plaisance, dans le cadre du Mois du Doc. C'est le film qui s'appelle Abou le King. Ça dure 52 minutes. Le Mois du film documentaire, c'est un rendez-vous annuel créé en 2000 par Images en Bibliothèque qui permet de découvrir des films documentaires et d'ouvrir les yeux sur de nombreux sujets. Donc cette année, là c'est le blablabla, nous vous proposons de découvrir... Non, voilà, je vous ai fait l'intro. Abou, qui est Abou ? Voilà. Abou veut être créateur de mode. Pas petit, grand créateur. L'achat de sa première machine à coudre lui ouvre des perspectives. Au bled, Abou n'est jamais allé à l'école. Sa famille n'en avait pas les moyens. Un jour, son père l'a donné à un monsieur. Et ce monsieur l'a mis sur la route périlleuse de l'exil. Après un an et demi, Abou est arrivé au Havre. Il est dans le plus grand lycée de la ville en CAP blanchisserie. Sur Instagram, il est Abou le King. Ça a été réalisé et écrit par Ariane Doublé. Et normalement, la réalisatrice sera présente.
D'accord, Mina.
Pendant la séance. Donc, vous pouvez aller voir toute la partie que je ne vous ai pas lue sur le mois du film documentaire, parce qu'il y a plein de films
qui vont passer. Il y en a partout, oui, qui passent dans toute la région. Enfin,
sur le portail des médiathèques d'Évreux et du Fonds patrimonial. Et ma rubrique culturelle s'enchaîne avec Arte.
Oui, c'est ça, mais juste un petit mot rapide, parce que la pendule tourne.
Mais non, donc, on a dit qu'on avait le temps.
Donc, effectivement, sur Arte, en ce moment, vous pouvez voir en replay quatre petits films d'à peu près un quart d'heure chacun et qui s'appellent Justice climatique quand la lutte pour le futur entre dans les tribunaux. Et dans ces quatre films, ça fait le point sur des initiatives qu'on fait différents groupes dans quatre pays européens. La France avec l'affaire du siècle, le Portugal avec des jeunes, la Suisse, on en avait parlé avec des grands-mères.
Qui avait porté aussi en justice.
Voilà. Qui avait contesté auprès de la Cour européenne des droits de l'homme l'atteinte à leurs droits à travers la crise climatique. Et le quatrième pays, qui est la Hollande, qui a également une association, des associations ont également tenté et ont gagné la condamnation de l'État hollandais pour son inaction vis-à-vis du changement climatique. Donc c'est quatre films qui font le point sur ces campagnes-là. Donc c'est visible sur Arte. Moi j'en ai vu trois des quatre, c'est très bien fait, c'est très précis, il n'y a pas de blabla, ça raconte bien le combat de chacun. Et simplement je vais vous lire une phrase dans la présentation qui me paraît suffisamment éloquente. Notre objectif, donc c'est un des groupes qui parle, notre objectif est de montrer que tout n'est pas perdu et que la justice peut faire changer les choses. C'est la seule arme qui nous reste pour contraindre les États et les entreprises, puisque le monde politique et industriel ne fait rien contre le dérèglement climatique. Voilà. Donc allez voir ces petits films. Je vous rappelle le titre de la série. Justice climatique quand la lutte pour le futur entre dans les tribunaux. Enfin, vous tapez justice climatique sur le site.
On va trouver sur les replays.
Et vous trouvez sans problème. Et ils sont disponibles jusqu'en février de l'année prochaine. Mais ne traînez pas pour aller les voir. Le temps passe vite. On va enchaîner sur la deuxième pause musicale. Et on se retrouve juste après.
Thank you. estuaires, le long des quais, le long des villes, de quart en quart, tu essaies de t'enfuir et tu traînes toujours la même histoire. Tu as marché sans t'arrêter, loin de ta vie, loin du passé qui te poursuit, et tu avances seul dans le soir. Les jours précaires, les rêves des fées, toutes ces misères, ces cris glacés sont derrière toi. Ce soir t'y vas, des amis ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao, ce soir je pars. Les jours gris ciao ciao, mon frère ciao ciao, mes amours ciao ciao, vers mon histoire. Toutes ces frontières de barbelés, tous ces cercueils de liberté déchirent ta peine et crachent sur la flamme de ton espoir. Tu voudrais vivre la vie, la vraie, celle qui enlace la dignité, loin du vacarme, et tu chantes toujours ton désespoir. Les jours de guerre, le cœur brisé, les nuits de peine à chavirer sont derrière toi. Ce soir t'y vas, mes amis ciao ciao, mes projets ciao ciao, mon pays ciao ciao, ce soir je pars. Les jours gris ciao ciao, mon frère ciao ciao, mes amours ciao ciao, vers mon histoire.
Sur l'antenne de Principe Actif, donc là je vais y penser à annoncer le morceau. elle s'appelle Clémence Savalli, et la chanson s'appelle Ciao, et ça parle de gens qui quittent leur pays. Il paraît qu'on les appelle des migrants et des réfugiés, voilà. Et je ne sais pas du tout ce que cette chanteuse à la magnifique voix a fait d'autre. Je ne connais que cette chanson là d'elle, qui m'avait été conseillée, je crois, par une membre du groupe il y a quelque temps. Attends, parce que j'ai pas remis ton micro, ma pauvre Edith.
Oh, mais je parle pas. Alors, vas-y. Je voulais simplement dire à nos auditeurs de ne pas hésiter à nous donner d'autres titres. On les passera volontiers.
C'est ça, exactement. Donc, on va changer de sujet complètement. Et je crois que c'était Edith qui voulait parler d'un sujet pas très gai. Ça s'appelle des robots tueurs.
J'ai un sujet assez... Voilà, qui, rien qu'à le lire, c'est quand même assez déconcertant et assez inquiétant. Donc, effectivement, ça s'appelle « Les robots tueurs ». Et je vais la lire. C'est une chronique qui est parue, qui a été publiée dans Libération ce 25 octobre dernier. Donc, le 8 octobre, le prix Nobel de physique était décerné aux professeurs Geoffrey Hinton et John Hopfield, en reconnaissance pour leur contribution dans le domaine de l'intelligence artificielle. Début novembre, les 193 États membres de l'Assemblée générale des Nations unies, réunis à New York, seront appelés à voter sur une résolution concernant les systèmes d'armes automatiques, également appelés robots tueurs. Bon nombre de ces systèmes reposent sur l'intelligence artificielle. Et le professeur Geoffrey Hinton, qui a eu ce prix Nobel, tire la sonnette d'alarme sur leurs dangers depuis plus de 10 ans. Alors les armes autonomes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des systèmes qui, une fois activés, ont la capacité de sélectionner une cible et d'engager une force létale seulement grâce à l'analyse de capteurs, sans intervention humaine. Ces systèmes d'armes soulèvent des questions fondamentales d'ordre éthique, humanitaire, juridique, opérationnel, moral et sécuritaire. La perspective de leur utilisation et leur prolifération est alarmante et constitue une menace sérieuse pour le droit international humanitaire et la protection des civils. Confier à une machine le pouvoir de vie et de mort sur un être humain franchit une ligne rouge morale inacceptable. Il est plus qu'incertain que les armes autonomes soient à même de respecter le droit de la guerre, en particulier lorsqu'il s'agit de distinguer les combattants des non-combattants ou de déterminer si les dommages civils anticipés d'une attaque sont proportionnels à l'avantage militaire escompté. Une décision au cas par cas qui requiert un jugement humain. Les civils risquent d'en payer le prix fort. De plus, en cas de violation du droit international, il sera juridiquement difficile, voire injuste, de tenir les opérateurs humains pénalement responsables d'actions entreprises par des systèmes d'armes autonomes qu'ils ne pouvaient ni prévoir ni contrôler. Alors c'est pour éviter d'avoir à faire face à ces dangers que Hinton, Hopfield et 2 millions d'autres experts en intelligence artificielle, scientifiques et organisations de la société civile, dont les nôtres, donc les nôtres c'est Amnesty, l'Observatoire des armements et France Human Rights Watch, qui ont signé, mon accent n'est pas terrible, Didier me reprend.
Human Rights Watch.
Voilà, qui ont signé cette chronique. Donc ces organisations appellent à une action préventive pour interdire et réglementer les systèmes d'armes autonomes. Il y a urgence. Effectivement, il y a urgence. Les conflits actuels illustrent de manière dramatique la façon dont les guerres se numérisent et s'accélèrent. À Gaza, l'armée israélienne utilise des systèmes de ciblage assistés par l'IA, appelés Gospel et Lavender. Au Burkina Faso et en Éthiopie, nous observons le recours des drones armés de bombes et d'autres munitions guidées par laser. En Ukraine, au Haut-Karabakh et en Libye, ce sont des munitions rôdeuses qui sont utilisées. Ces investissements militaires dans l'autonomie et d'autres technologies émergentes entraînent l'humanité sur une pente glissante. Alors, dans le passé, les États ont su agir de concert pour interdire les armes chimiques et biologiques, les lasers aveuglants, les mines antipersonnelles et les armes à sous-munitions. Ces traités de désarmement humanitaire ont stigmatisé toute l'utilisation de ces armes par tout acteur en toutes circonstances. Et même les États non signataires de ces traités ont fini par s'aligner, en mettant fin à leur utilisation ou en les réduisant drastiquement, sauvant ainsi d'innombrables vies civiles. Depuis 2013, les défis posés par les armes autonomes ont été longuement débattus, d'abord par la Commission des droits de l'homme de l'ONU, puis dans le cadre de la Convention de certaines armes classiques à Genève. La France, qui avait identifié les dangers émergents, a joué un rôle important dans la conduite de ces discussions. Mais aujourd'hui, une minorité d'États, dont la Russie et l'Inde, bloquent les propositions visant à négocier une nouvelle législation internationale sur les systèmes d'armes autonomes au sein de la Convention sur les armes classiques. Le processus décisionnel par consensus permet en effet à un seul pays d'en empêcher tout accord. Alors, comment faire pour sortir cette impasse? L'Autriche et d'autres pays proposent des discussions à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, donc qui vont démarrer début novembre.
Oui.
Un forum qui inclut davantage d'États que la Convention sur les armes classiques. Ce cadre permettra, on espère, de traiter les questions plus larges relatives aux droits humains, à la prolifération, à la sécurité et à d'autres enjeux soulevés par les armes autonomes, en plus du respect du droit de la guerre. Les progrès réalisés dans ce cadre seront beaucoup moins susceptibles d'être bloqués par une poignée d'États opposés à toute réglementation. Donc voilà où on en est. On espère aussi que la France va avoir un rôle positif dans les discussions Et c'est un article, bon, je vous ai tout lu, c'est un peu plombant, je suis vraiment désolée, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir en info. Donc, les signataires, c'est Sylvie Bicot, la directrice d'Amnesty, Patrice Bouvray, le directeur de l'Observatoire des armements, et Bénédicte Jeannerot, directrice de France Human.
France Human Rights.
J'ai fait des
Watch.
Progrès. Ça va, c'est bon, il accepte.
Il y avait Edith qui me montrait avec vous.
Ben bah oui, parce que j'ai honte, j'ai stylo. Honte.
Je me demandais ce qu'elle voulait.
Merci Edith. Du coup, on va passer à une bonne nouvelle.
On va passer à une bonne nouvelle.
Il nous faut des bonnes nouvelles. Avec Didier, il n'y a pas de juste. Je sais que tu allais faire ça. Non, tu ne fais pas ça. Tu passes à la bonne nouvelle, Didier. Non.
Vous pouvez constater, ceux qui nous écoutent, que je n'ai même pas le droit à la parole.
Et c'est parce que nous, on gère un peu aussi les petits chiffres là, qui sont à côté.
Alors une bonne nouvelle, effectivement, ben, pour ceux qui nous écoutent et qui ont une bonne mémoire, il y a quelques mois, je crois que c'était au début de l'année, on avait fait un appel à l'action dans le cadre de nos émissions. On en fait de temps en temps pour deux personnes qui avaient été arrêtées et emprisonnées en Afghanistan. Dieu sait que l'Afghanistan est un pays où les droits humains sont particulièrement malmenés. Et c'est de pire en pire. Et que ces deux personnes, ces deux hommes avaient été arrêtés. Ce sont deux éducateurs qui avaient pris fait et cause pour les droits des femmes et entre autres pour le droit à l'éducation des femmes en Afghanistan, qui lui aussi est un droit extrêmement malmené, puisqu'à l'heure actuelle, les femmes en Afghanistan n'ont plus le droit d'aller à l'école passé l'âge de 12 ans. Et je vous rappelle toujours, quand on parle de l'Afghanistan, cette phrase de l'actrice américaine dont j'ai oublié le nom, mais qui a dit à l'ONU il n'y a pas très longtemps, en Afghanistan, les écureuils ont davantage de droits que les femmes.
Ouais.
Donc voilà, Meryl Streep, elle s'appelle.
Oui, voilà. J'essayais de me rappeler aussi.
Donc ces deux hommes s'appellent Aman Farim Azimi et Sedi Kula Afghan. Donc ce sont deux éducateurs qui ont pris fait et cause pour les droits des femmes et qui ont été arrêtés, entre autres pour ça, et ils ont été libérés. Voilà. Donc Segula Afghan a été libéré le 9 avril 2024, à la faveur d'une grâce accordée à des prisonniers à l'occasion de l'Aïd, et Aman Farim Azimi a été remis en liberté le 26 septembre 2024 à la suite de la décision d'un tribunal taliban ayant invoqué un manque de preuves. Alors déjà, un tribunal taliban qui évoque le manque de preuves pour condamner quelqu'un, ça laisse rêveur, sachant qu'en général, les preuves, c'est pas le problème. S'ils en ont pas, ils les inventent. Voilà. Mais bon, donc là, ça a marché.
Bonne nouvelle.
Encore une fois. Et bon, bien évidemment que les autorités taliban en Afghanistan ne préciseront jamais que l'action d'Amnesty a joué en la faveur de ces deux
prisonniers
d'opinion.
On ne le saura pas, mais il faut le faire, voilà. C'est
mais
ça.
De toute façon, il est évident que notre pression a dû avoir un impact.
Plus il y a de l'information. Voilà.
Donc ces deux militants ont passé plusieurs mois en prison. Ils sont maintenant libres et ils n'auraient jamais dû être arrêtés puisqu'ils n'ont fait que défendre les droits des femmes en Afghanistan. Voilà, c'était la bonne nouvelle et on en a aussi plein d'autres, on vous dira dans les prochaines émissions.
Merci Didier. Les infos locales.
Les infos locales, il n'y en a pas beaucoup.
Si. Non, ça veut dire qu'on n'a pas de choses extérieures sur ce mois qui viennent jusqu'au prochain.
Voilà.
On vous donnera pour... changer leur vie.
Notre prochaine émission, je l'avais noté la date, mais je ne vais pas la retrouver encore une fois, comme à chaque fois. Mais enfin, c'est au début du mois.
5 plus 7, ça fait 12.
Non, mais ça dépend si c'est un mois de 5 semaines ou pas. Mina. C'est ça.
Le 12, c'est ça. Romina avait gagné.
Bien, Mina.
Notre prochaine émission.
Moi, je ne fais pas de paris.
12 plus 14.
Le mardi 12 novembre prochain, à 19h au direct.
Il y a 5 semaines, ça dérègle tout.
On va arrêter l'émission parce que là, ça part dans tous les sens.
Et donc, on va laisser la place.
Pour cette campagne Changer leur vie, ex 10 jours pour signer, regardez nos pages sur les réseaux sociaux, on va les rappeler. Donc, Amnesty International Évreux sur Facebook, Évreux avec un petit accent. Un E majuscule avec un accent, voilà.
Parce que sans ça, ils ne voulaient pas.
Pour nous trouver. Donc, Amnesty International Évreux et notre page Instagram qui est. Évreux.
Voilà que j'ai... Bah, vous faites Évreux, Amnesty.
Voilà, ça y est, ça me revient. Amnesty.évreux. Amnesty.évreux, c'est le nom de la page Instagram. Donc n'hésitez pas à aller, on a plein d'infos dessus, n'hésitez pas à les consulter et vous aurez toutes les infos pour notre campagne Changer leur vie, 10 jours pour signer, qui va démarrer fin novembre.
Nous allons saluer les auditeurs.
On rend l'antenne.
On leur dit bonne soirée.
Au laboratoire et à Badu qui vient d'arriver. Et puis on vous souhaite effectivement une bonne soirée et à très bientôt. Et ne lâchez rien pour les droits humains, c'est important.
Voilà. Au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.